Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Comment jardiner pour préserver la biodiversité ? Élément de réponse avec ce nouvel épisode de notre magazine Biodiversité en Air. Il y a faire son potager, pour le plaisir ou par souci d'économie. Et puis, il y a faire son potager en pensant vie du sol, diversité et interaction bénéfique de la nature. Là, on utilise par exemple des techniques comme la permaculture. Avant d'en parler tout à l'heure avec Charlie Rio de la Maison de l'agriculture biologique du Finistère, direction Plouarzel, près de Brest. Dans cet écolieu, Padus, Bertrand a réfléchi à une autre façon de cultiver son jardin. C'est un reportage signé Jeanne Blanchard de Radio Évasion.
Ici à Lézéna, qui est notre lieu de vie à Laetitia et moi, et où est le siège de l'asso, Busugenco, et donc pas mal d'activités de l'écolieu Padus. On pense via le prisme de la permaculture, qui est en fait de créer des écosystèmes résilients en s'inspirant de la nature. Donc ça va au-delà du simple fait de faire un potager, c'est vraiment comment on peut disposer les éléments d'un écosystème ensemble de façon à ce qu'ils cohabitent le mieux possible, qu'il y ait des relations de synergie entre les éléments, etc. Et donc on va appeler ça le design en permaculture. Et donc c'est une partie de mon quotidien, de designer le lieu, et puis après d'en prendre soin et de produire une partie de notre alimentation, entre autres. Donc on va faire une petite visite radio, je ne sais pas si je vais réussir à faire voyager visuellement, mais on va essayer le mieux possible de décrire en tout cas ce qui se passe ici. Donc j'ai tendance à commencer la visite par le début de notre potager, qui est en fait situé juste en sortie de maison à côté de la cuisine, qui est la fameuse spirale aromatique qu'on croise beaucoup chez les permaculteurs, qui est en fait un moyen d'avoir toutes les herbes aromatiques sur un même espace, parce que c'est en 3D et donc c'est une jolie spirale élevée, et ça permet de créer différents microclimats pour lesquels chaque plante a une affection particulière. Par exemple, le romarin, là, il est au sommet de la spirale parce qu'il aime bien être au soleil, avoir les pieds au sec, un sol drainé, etc. Et puis, plus on descend dans la spirale, plus on va avoir des aromatiques qui vont avoir besoin d'un peu plus d'onde, d'avoir les pieds un peu plus à l'humidité. Voilà. Et puis, pour finir, au niveau de la spirale, on a une petite mare dans laquelle viennent se réfugier des grenouilles. Donc là, on les voit pas, elles sont pas encore arrivées cette année, mais l'année dernière, on avait 3 petites grenouilles. Et la spirale est aussi sur le chemin du retour du potager. Donc quand on rentre du potager, on va pouvoir assaisonner nos légumes qu'on a récoltés en fonction de ce qu'on a dans notre panier et ce qui nous vient à l'esprit quand on a envie de cuisiner.
Comment toi t'as découvert la permaculture ?
Comment j'ai découvert la permaculture ? En fait c'est via mon intérêt pour l'écologie en général, en fait c'est et les autres façons de produire et de consommer. Je suis très vite tombé dans des lectures qui parlaient de permaculture. Voilà, je suis vraiment tombé dedans et voilà, je fais ça, c'est mon quotidien finalement et ça me va très très bien. Et puis aujourd'hui je suis content de pouvoir transmettre ce que j'ai appris durant mes quelques années d'expérience maintenant, de pouvoir aider des gens à s'immiscer dans ce monde-là, en leur expliquant aussi que c'est pas du potager, j'insiste là-dessus, parce que malheureusement le biais est trop souvent commis. Alors c'est hyper chouette que les gens fassent du potager, mais voilà, n'oubliez pas que la permaculture, c'est plus vaste que ça, et qu'il y a un champ des possibles énorme, et qu'on n'est pas obligé d'être fan de potager pour faire de la perma, quoi.
Ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre en place à part le potager ?
On peut aller faire un petit tour au verger, alors qui existait mais qu'on est en train de transformer. Voilà, donc je peux t'emmener au verger, ouais.
C'est parti.
Alors si ce que je peux dire sur l'ensemble du lieu, c'est aussi que on a vraiment envie d'accueillir la biodiversité Et donc on crée plein d'espaces, de refuges, la spirale en est un finalement, parce que les insectes viennent dans les pierres, peuvent venir dans la mare, enfin les insectes ou d'autres animaux. C'est important d'avoir des points d'eau en fait pour les oiseaux, pour les abeilles qui viennent boire. Et puis on crée des haies. Avec des haies, ce qu'on appelle ou bocagères, ou des haies diversifiées avec différentes espèces et variétés d'arbustes dans les haies, qui nous permettent d'avoir des fruits, qui permettent aux oiseaux de nicher. Ça peut être des arbres aussi qui fixent l'azote de l'air et donc qui vont permettre d'enrichir le sol. Voilà. Et donc chaque espace est pensé pour qu'il y ait de la place pour la nature. Donc là, on arrive dans le verger, donc qui était un verger existant quand on est arrivé. Il a été planté il y a une trentaine d'années. Donc c'est un verger traditionnel, on va dire, hein, qui a été planté donc il y a 30 ans. Donc c'est les arbres qui ont été plantés, c'est donc dans un verger classique, donc des pommes et des poires, bien alignés. Les arbres font tous la même taille, la même hauteur. Et donc si on est très content de profiter de ces fruits l'été et puis bah, quasi toute l'année pour les pommes, on a aussi envie de goûter d'autres fruits. Et donc l'idée, c'est de transformer ce verger petit à petit en quelque chose que certains appelleront forêt-jardin, forêt comestible, jardin-forêt, enfin peu importe le terme. Mais l'idée, c'est de créer de la diversité là aussi, et donc de la diversité dans les espèces. Donc changer du poirier et du pommier, on peut mettre des cerisiers, on peut mettre des pruniers, des cognassiers, du kiwi. Voilà. Et puis pour les plus audacieux, il y a plein d'autres espèces intéressantes. Et varier aussi les hauteurs, les strates en fait qu'on appelle dans une forêt. Donc, il y a des arbres de canopée, il y a des arbres ou type arbuste un peu plus bas, il y a des plantes herbacées.
Donc chaque plante apporte à l'autre.
Et chaque plante apporte à l'autre. Après, c'est toujours difficile de savoir réellement ce qu'apporte une plante à une autre plante, mais en tout cas, ce qu'on constate dans la nature, c'est qu'il n'y a pas de monoculture, qu'il y a une diversité et que nous, on essaie de la reproduire. Et bah, y a peut-être des associations qui vont marcher mieux que d'autres. Après, de là à savoir vraiment ce qui fonctionne réellement, je pense qu'on en est au balbutiement de ce qu'on apprend à connaître des arbres, de leurs liens avec les champignons. Et donc, aujourd'hui, nous, on expérimente d'une manière sans forcément attendre de résultats scientifiques derrière. On a envie de planter des fraisiers à un endroit, on se dit on les plante là, et puis si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, bah, on essaie de comprendre pourquoi, mais c'est pas grave, on en a ailleurs aussi. C'est une forme de résilience, c'est pas de planter tous ces fraisiers au même endroit, quoi. On en plante un peu partout. Puis comme on est gourmand, on est content de les trouver sur le bord du chemin. J'emprunte le chemin tous les jours pour aller à la serre, un peu plus bas, et l'été, au printemps, je suis très très content sur mon chemin de pouvoir trouver de quoi grignoter. Voilà.
Voilà sur cet écolieu Padus à Plouarzel près de Brest, un reportage signé Jeanne Blanchard à Radio Évasion, votre radio associative du Centre Finistère. Alors pour aller plus loin sur cette idée de cultiver son jardin en veillant bien à respecter la biodiversité, nous sommes en liaison avec les studios de Radio Évasion au Fou avec Charlie Rio de la Maison de l'Agriculture Biologique du Finistère. Charlie Rio, bonjour.
Bonjour.
Alors, la Maison de l'Agriculture Biologique du Finistère, c'est une association interprofessionnelle, départementale, dont la mission principale est de développer l'agriculture biologique de manière cohérente et équitable en lien avec la filière locale. Est-ce que j'ai tout bon ?
Oui, c'est exactement ça. En fait, on essaye de regrouper l'agriculture biologique de la terre à l'assiette. Donc, on part des paysans, des agriculteurs. On suit les filières de l'agriculture biologique, donc les transformateurs, les distributeurs. Et on va jusqu'au consommateur, on va jusqu'à l'assiette. Et on va même un petit peu plus loin, parce qu'après, on retourne avec les gens dans les jardins, avec le compostage, le jardinage naturel, toutes ces notions-là. Donc on fait un petit peu le tour de l'alimentation biologique.
Alors vous, Charlie, vous y êtes chargé de mission jardinage et espaces verts sans pesticides, mais aussi formateur jardinier au naturel. On vient d'entendre dans ce reportage sur cet écolieu qui pratique la permaculture, mais aussi la diversification des plantations dans leur verger. On vient d'entendre une série de pratiques. Est-ce que cet exemple est selon vous emblématique de ce qu'est jardiner au naturel ?
Oui et non. Littéralement jardiner au naturel, au début c'est un terme qui a été inventé un petit peu pour en opposition avec jardiner avec des pesticides, donc avec des produits qui tuent. Et l'idée c'était d'essayer de trouver d'autres solutions que les produits chimiques pour jardiner. Et du coup c'était remplacer un produit par autre chose. Après dans l'exemple qu'on a là, on va un petit peu plus loin dans l'histoire parce que on a une autre notion qui est la notion de permaculture et on a une notion de conception dans le jardin. Donc il y a un regard extérieur et un regard un peu global sur le jardin qui est très très intéressante.
Alors est-ce qu'on peut préciser justement un petit peu ce concept de permaculture pour ceux qui ne connaissent pas réellement ce terme ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ?
Alors oui, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? En fait c'est assez dur à définir comme ça en quelques mots. Pour la petite histoire, il y a la permaculture, la formation à la permaculture, c'est un petit peu cadré. Et juste l'introduction à la permaculture, ça dure 3 jours. C'est 3 jours de formation. Donc c'est vrai qu'en 10 minutes, on va avoir du mal à définir ça. Mais la permaculture, c'est vraiment avoir une réflexion sur l'approche globale du jardin et réfléchir à toutes les interactions qu'il peut y avoir à l'intérieur du jardin entre les différentes choses. Et essayer de faire en sorte qu'il y ait le plus d'interactions possibles et que ça se passe le mieux possible.
L'idée, c'est Bertrand, dans ce reportage, nous parle de design potager. C'est ça un peu l'idée, c'est de designer son jardin de telle façon à ce qu'il y ait des interactions. Ce serait peut-être une première définition de la permaculture.
C'est ça, en fait. Il y a plein de flux d'énergie qui existent dans le jardin. Le vent est une énergie, le soleil est une énergie, le ver de terre qui se déplace est une énergie. Et puis la plante qui pousse est une énergie aussi. Et l'idée, c'est un petit peu de prendre en compte tous ces éléments du jardin, toutes ces énergies, tout ce qui s'y passe, et de faire en sorte de maximiser les choses, les éléments. Donc il y a l'exemple de la spirale aromatique qui est abordée dans le reportage. Mais un autre exemple, par contre, quelque chose qui marche très bien en permaculture, c'est le fait de mettre des arbres dans les jardins, et notamment dans les zones potagères, de mettre des arbres, et dans les arbres, de mettre des plantes grimpantes. Et en fait, l'arbre n'est plus juste un arbre, ça devient un support, un tuteur pour des végétaux grimpants. Et donc sur un même espace, on a 2 végétaux, l'arbre et puis la plante grimpante qui est associée. Donc ça, c'est un exemple de choses qu'on peut faire en permaculture. Et l'idée, c'est un petit peu avant de mettre ça en œuvre, de réfléchir à tout ça. Donc la première chose qu'on fait en permaculture, quand on réfléchit à un projet, c'est qu'on ne fait rien, on attend. C'est la première des choses de la permaculture, c'est d'attendre et de regarder et d'observer ce qui se passe. Et je regarde un petit peu ce que j'ai dans le jardin, quels sont les végétaux qui y poussent, quelles sont les zones sèches, quelles sont les zones humides, quelles sont les zones d'ombre, quelles sont les zones ensoleillées, quelles sont les zones ventées, où est-ce que ça pousse bien, où est-ce que ça pousse moins bien. Et ça m'apprend déjà à connaître le lieu. Et après, à partir de ça, je vais évaluer toutes les ressources que j'ai et tous les besoins que je vais avoir. Et c'est là, à ce moment-là, une fois que j'ai tout ça, que je vais pouvoir faire mon design. Le design, donc c'est un mot anglais, hein, mais c'est en gros, c'est un dessin du jardin où on va essayer de prendre en compte tous les avantages des choses qui s'y trouvent. Donc c'est ça la notion de design dont on entend parler dans le reportage.
Donc Charles Rio, en fait, faire son potager, c'est comme on est un certain nombre à le faire, ce n'est pas forcément jardiner au naturel, si je comprends, ça va bien plus loin que ça.
Alors faire son potager, on peut le faire avec des produits, on peut le faire sans produits, on peut le faire en suivant les équilibres naturels, et puis faire son potager en permaculture, c'est encore une autre démarche. On va pas juste planter des poireaux et puis semer des carottes à côté. On va réfléchir à où on va mettre les poireaux. On va réfléchir à mettre des poireaux à différents endroits. On va réfléchir aux besoins qu'ils vont avoir. Et par exemple, de manière très basique, dans le potager, à côté du potager, souvent on a un tas de compost. et on l'utilise juste pour recycler de la matière organique. Et on peut l'utiliser d'autres manières. Par exemple, quand on fait du compostage, il y a des jus qui s'écoulent. Donc, les jus de compostage qui sont assez riches, en fait, qui sont des engrais. Et on pourrait, par exemple, mettre des plantes gourmandes autour. Par exemple, des artichauts ou des cassis qui sont gourmands. On met ça autour du tas de compost. Et ben, ces végétaux-là vont récupérer les jus du compost. Après, une autre chose que peut apporter le compost, c'est qu'en fait, à un moment, il monte en température. Et au printemps, on a des végétaux qui ont besoin de chaleur pour germer. Par exemple, les courgettes ou les courges, il faut qu'ils fassent une vingtaine de degrés pour germer. Et ben, on peut utiliser la température du compost pour les faire germer. Et du coup, une démarche en permaculture, c'est cette réflexion autour de « j'ai un élément, et ben, je vais lui donner plusieurs fonctions ». Le compost, c'est pas juste recycler de la matière organique. Le compost, c'est dans le processus, on récupère les jus pour faire pousser d'autres plantes et puis on utilise la chaleur pour faire germer des graines. Et ben ça, c'est une démarche de réflexion en permaculture, du coup.
Alors, est-ce que justement, ces réflexions en permaculture, ça permet d'aller beaucoup plus loin dans la préservation de la biodiversité? On avait cet exemple de ce Bertrand dans cet écolieu près de Brest qui nous parlait justement de sa spirale aromatique et qui nous disait, ben voilà, c'est un endroit refuge aussi pour les insectes.
Alors effectivement, la biodiversité, c'est une composante d'un projet en permaculture. Hein. Dans la permaculture, on jardine avec les choses, avec les éléments. Et la notion de diversité, c'est quelque chose qui est au cœur d'un projet de permaculture. Donc sur la spirale aromatique, on a effectivement un exemple de quelque chose d'attractif pour la biodiversité, parce que sur un espace d'un mètre carré, on va avoir des milieux différents. Donc là, dans l'exemple, il y avait de la terre, de la pierre et même une petite mare. Et puis, on va avoir plein de plantes différentes et plein de plantes de milieux différents. Donc, sur juste un mètre carré, on va avoir 10, 15 végétaux différents qui vont favoriser des bestioles, des insectes particuliers. Et en plus, ça pourra servir d'abri jusqu'à aller aux grenouilles. Donc, effectivement, c'est des choses qui sont très, très intéressantes. Et dans la permaculture, on diversifie énormément. Dans un projet en permaculture, par exemple, dans le reportage, ça parle un peu du verger. Et ben dans un verger en permaculture, on ne va pas avoir un rang de pommiers, mais on va avoir un pommier, puis un poirier, puis un cerisier. Et du coup, on va toujours. Et au pied de ces arbres-là, il va y avoir des végétaux différents qui vont être associés aussi. Tout l'espace peut être utilisé pour faire pousser des plantes qui vont servir. Hein. À des choses diverses et variées, que ce soit l'alimentation ou que ce soit à favoriser la biodiversité. Dans un projet en permaculture, on va toujours penser à laisser un espace pour la vie sauvage, pour les animaux sauvages. Donc c'est vrai que la notion de biodiversité, elle est au cœur même du projet.
Alors justement, on a parlé dans ce reportage et dans notre entretien de mots assez compliqués comme permaculture, design potager, spirale aromatique. Est-ce que justement c'est à la portée de tout le monde de jardiner de cette façon, de faire des potagers en tenant compte des techniques de la permaculture et d'ainsi favoriser la biodiversité? Est-ce que c'est facile pour tout à chacun?
Bah oui et non. Non, en vrai, c'est pas toujours évident si on n'y connaît rien du tout, si on n'a pas l'habitude de jardiner. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que la spirale d'aromatique, c'est un des outils de la permaculture. C'est une mise en œuvre du projet. On parle aussi des fois de jardin-forêt ou de but en permaculture. Tout ça, c'est des mises en application. Mais le vrai projet de la permaculture, c'est d'abord d'observer, d'essayer de comprendre ce qui est en place et d'essayer d'améliorer. Et ça se fait dans le temps et de ce fait-là, un projet en permaculture, il n'est jamais terminé. C'est-à-dire que tous les ans, on tire des expériences de ce qui s'est passé, de ce qu'on a observé, et puis on essaye d'améliorer pour l'année d'après. Donc ça, cette notion de design, dans le reportage, il dit, hein, il fait le design un peu tous les jours. Hein. C'est au cœur de son projet de permaculture. Donc du coup, en fait, le plus compliqué un petit peu dans la permaculture, c'est d'acquérir une méthode qui va permettre de faire ce design.
Et alors justement, cette méthode, comment on peut l'apprendre? Est-ce qu'il faut se documenter soi-même? Est-ce qu'il faut suivre des formations? Qu'est-ce que vous pourriez conseiller justement pour un auditeur ou une auditrice qui voudrait s'y mettre dès demain à cette notion de permaculture dans son potager?
Alors du coup, aujourd'hui sur la permaculture, il y a plein de ressources. Donc on trouve beaucoup de livres qui montrent des exemples de projets en permaculture. Ça, c'est très à la mode. Après, il y a des vidéos qu'on trouve. Hein, sur la... Après, on trouve de tout. Hein. C'est le souci des vidéos qu'on va trouver. Donc il y a des choses très intéressantes et d'autres qui le sont un peu moins. Mais si on veut aller un petit peu plus loin et se former à la permaculture, il y a des formations en ligne gratuites qui existent. De type MOOC, donc c'est MOOC, c'est une formation en ligne interactive. Donc il y a un MOOC sur la permaculture. Et après, si on veut se former en discutant avec des gens, en rencontrant des gens, en étant sur le terrain et en mettant en pratique, il existe des formations sur la Bretagne avec des durées plus ou moins longues. Hein, ça va de une journée à 9 jours. 9 jours, c'est le cycle complet de formation en permaculture, mais ça peut déjà être une initiation sur une journée. Et il y en a régulièrement dans tous les départements bretons. Donc pour savoir un petit peu où trouver ça, soit on cherche sur Internet, et sinon il y a un réseau de permaculteurs qui référence un petit peu tout ce qui existe en formation, qui s'appelle le réseau Brin de Paille, et qui regroupe toutes les offres de formation de permaculture.
En tout cas, c'est ce que vous faites également à la Maison de l'agriculture biologique du Finistère ?
Oui, c'est ça. Depuis longtemps, ça fait 20 ans maintenant hein, que les consommateurs nous demandent « Bah oui, et moi, dans mon jardin, comment je peux faire pour jardiner sans utiliser de produits chimiques ?» Et donc, on propose des formations. Alors, ça va des ateliers de 2 heures. On propose des choses autant pour les enfants, pour les scolaires que pour les adultes. Et puis, on a des formations un petit peu plus longues, de 2-3 jours, donc qui sont des formations en présentiel. Et puis, on a aussi essayé de développer des formations de type formation à distance, donc avec l'usage des outils numériques. Donc, soit des petits modules de formation, ou soit des... Là, on vient juste de terminer un MOOC sur Jardiner avec le vivant, qui a regroupé 10 000 utilisateurs. Donc, c'était très, très intéressant. Et ça, du coup, on va mettre les vidéos qui ont été tournées en ligne. Et du coup, on essaye de varier un petit peu les supports, que ce soit de l'information, de la petite formation courte en présentiel, ou alors de la formation en distanciel. Donc voilà, pour toucher un petit peu les différents publics, et puis en fonction aussi de leur disponibilité, des envies, du temps qu'on souhaite passer là-dessus.
C'est un mouvement qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Vous constatez, vous formez des particuliers et des professionnels depuis 20 ans, mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez véritablement une tendance vers ces techniques, notamment des particuliers ?
Oui. Alors, il y a 20 ans, on sentait déjà, mais c'est vrai que c'était des groupes un peu plus limités. Aujourd'hui, il y a des injonctions réglementaires, puisque les pesticides sont interdits pour les particuliers, sont interdits pour les communes maintenant. Donc, il y a cette volonté de faire autrement. Et puis, nous, on arrive là-dessus un petit peu en disant bah, faut pas remplacer un produit par un autre produit, mais plutôt réfléchir globalement au système, réfléchir à l'écosystème et mettre en place quelque chose qui va durer dans le temps. Et donc, ça, c'est des réflexions qui rentrent dans des projets en permaculture, effectivement.
Il y a quand même cette notion de plaisir. C'est pas parce qu'on doit apprendre des techniques, réfléchir, qu'il n'y a pas de plaisir à jardiner. C'est ce que vous dites un petit peu aux personnes que vous formez ?
Bah, nous, de toute façon, les formations, on essaye toujours de faire en sorte qu'elles soient un petit peu ludiques, hein, parce que ça reste effectivement sur du temps de loisir. Donc, on n'est pas là avec un bâton. Donc, déjà, il y a cette première chose de relativiser, si on rate de dire c'est pas grave, parce qu'en vrai on rate plein de choses. Hein. Mais voilà, donc déjà être sur le plaisir de faire, il y a aussi le fait de mettre les mains dans la terre. Aujourd'hui on parle de terrothérapie, de se ressourcer un petit peu en étant en connexion avec le vivant. Et puis on essaye d'aller crescendo aussi, d'accompagner les gens petit à petit en fonction de leur historique, de là où ils viennent et puis de là où ils veulent aller. Du coup, on essaye vraiment d'aller en douceur avec les gens pour qu'ils aient le temps de... Parce qu'à un moment, il faut aussi changer de regard, il faut aussi changer de paire de lunettes. Et ce n'est pas juste je fais une action, j'ai un résultat, c'est je fais une action, ça va intervenir sur un système qui est en place et du coup, ça va modifier des choses et il va se passer quelque chose. Une action apporte une réaction et du coup, bah, c'est prendre en compte ces choses-là. Et on n'a pas forcément toujours le résultat qu'on attend. Mais des fois, le résultat, il met 1 an, 2 ans, 3 ans avant de se mettre en place. Mais après, quand c'est en place, ça marche bien, quoi. Donc, du coup, c'est aussi apprendre aux gens à pas trop se prendre la tête et à apprendre à regarder les choses un peu différemment, prendre le temps d'observer, prendre du plaisir à observer. Et puis, des fois, on dit aux gens... par exemple, sur l'histoire de la pelouse, on a dans la notion collective qu'une pelouse, il faut la tondre. Mais en fait, il n'y a rien qui oblige à tondre une pelouse. Et on peut juste s'asseoir dans sa pelouse et regarder les herbes pousser, et puis les papillons qui vont arriver et les sauterelles qui vont réapparaître. Et ça reste du jardinage. Mais voilà, donc du coup, c'est se reposer les questions et de faire du jardinage comme on a envie de faire aussi et de retirer un certain nombre d'injonctions qui sont posées aujourd'hui, qui viennent de notions historiques du jardinage et de contrôle de la nature. Donc c'est re-questionner un petit peu tout ça qu'on fait au travers de tous les temps d'échange qu'on a avec les jardiniers.
Avec cette notion et cet objectif de préserver la biodiversité, préserver la nature, mais il y a aussi l'idée aussi de réussir à faire pousser ces plantes, ces fruits dans ces vergers.
Oui, il y a un petit peu l'éthique de la permaculture, c'est... prendre soin de la terre, prendre soin des humains, et puis produire avec abondance et partager. Donc il y a effectivement cette notion de produire avec abondance. Si on regarde un milieu naturel, on voit que si on prend 1 mètre carré dans un jardin où on n'est pas intervenu, il y a plein de plantes qui poussent. Donc la terre, elle est capable de faire pousser des végétaux. Et l'idée, c'est de suivre ce modèle-là et de l'adapter à des végétaux qu'on va pouvoir utiliser pour notre santé, pour notre alimentation, pour des choses comme ça. Et l'idée, c'est de reproduire l'abondance qui existe dans la nature et de pouvoir la valoriser au jardin. Donc effectivement, il y a cette idée de donner de la fertilité, de pouvoir produire tout en respectant le vivant, tout en respectant la biodiversité, même en améliorant la biodiversité. Et puis ça répond aussi à des enjeux de notre temps, c'est remettre du carbone dans le sol, utiliser le sol comme stockage de carbone, favoriser la biodiversité du sol, permettre à l'eau de réintégrer le sol. Puis même dans certaines techniques de jardinage, ça permet de baisser la température ambiante. Donc là, on voit bien, ces derniers jours, c'était des choses qui étaient très, très importantes.
Effectivement, donc produire avec abondance, tout en respectant la nature, la biodiversité, celle du sol, par exemple. Merci beaucoup, Charles Hériot. Je rappelle que vous êtes chargé de mission à la Maison de l'agriculture biologique du Finistère. Merci également à Yann Simon de Radio Évasion pour la mise en place de ce duplex. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Biodiversité en Air. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la CorLab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.